France Info.
Info, télé et radio réunis jusqu'à 9h comme chaque matin pour accueillir notre invité politique, c'est la ministre des Transports et Renaud Delli est à mes côtés.
Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
À l'heure qu'il est en ce moment même, le ministre de l'économie des Pays-Bas est dans le bureau de Bruno Le Maire à Bercy. Après le raid des Pays-Bas sur le capital d'Air France KLM, c'est quoi? C'est une explication de gravure entre les deux hommes?
Bah écoutez, cette entrée au capital de l'État néerlandais, c'est effectivement une démarche assez inhabituelle et qu'on peut percevoir comme inamical, puisque ni le conseil d'administration, ni le gouvernement n'a été prévenu. Donc effectivement, ça appelle des clarifications, et c'est le sens de la réunion qui est en cours entre Bruno Le Maire et son homologue. Et moi, j'aurai un échange tout à l'heure avec ma collègue ministre des Transports pour comprendre, demander des clarifications sur les intentions du gouvernement néerlandais.
À quel moment, vous avez été prévu de ce raid financier?
Moi, j'ai été appelé par ma collègue au moment de la conférence de presse.
C'est-à-dire
voilà. Au moment où ils étaient en train d'annoncer leur...
Donc en même temps que la presse, vous
absolument.
Avez été informé,
voilà.
En gros.
Voilà. Donc du coup, c'est franchement inhabituel. C'est pas du tout les relations qu'on a généralement avec un État ami. Donc ça appelle effectivement quelques clarifications sur les intentions.
C'est inhabituel, comme vous dites. C'est une agression. C'est une humiliation.
Écoutez, on ne va pas employer des grands mots et monter non plus dans l'escalade des mots. Ça mérite qu'on ait une explication du gouvernement néerlandais sur ses intentions. Moi, je vais vous dire, mon objectif, c'est clairement l'intérêt d'Air France KLM.
Pourquoi vous n'êtes pas présente à cette réunion, Madame Borne?
Moi, je vous dis,
j'aurai un
échange.
Air France, c'est la plus grande entreprise de transport.
Oui, mais j'aurai un échange. Tout à l'heure, avec mon homologue et ma collègue, donc ministre des Transports, Bruno Le Maire a un échange avec son homologue, j'aurai un échange avec ma collègue.
L'avenir de la compagnie, justement, Air France KLM, il est menacé à vos yeux aujourd'hui?
On a bien vu que cette entrée au capital, qui n'est pas très explicable vu des acteurs du secteur, a fait baisser le cours d'Air France KLM. Donc c'est le premier résultat. On est tous attaché à ce que Air France KLM continue son développement, que ça reste un leader mondial. Et donc, il y a besoin d'une stabilité dans l'actionnariat. Il y a besoin aussi que les attitudes des uns et des autres soient explicables. Donc, il faut absolument qu'on rentre maintenant dans un processus où on comprend les intentions de chacun.
Vous diriez que l'offensive des Pays-Bas a fragilisé le groupe?
C'est en tout cas très clairement ce que reflète son
cours
de bourse.
À la bourse, oui. Voilà. Mais est-ce que l'alliance elle-même est fragilisée?
Franchement, on ne va pas non plus être alarmiste. Il faut qu'on s'explique avec ce gouvernement néerlandais et qu'on se redise ensemble, qu'on défend l'intérêt d'Air France KLM, le renforcement de ses alliances, sa position de leader du secteur au niveau mondial. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'on
clarifie. Est-ce que l'État français pourrait racheter davantage de parts? Pour arriver au-dessus des Pays-Bas.
Objectivement, on ne va pas rentrer dans une escalade. On ne va pas rentrer dans cette escalade. Aujourd'hui, il y a sans doute des inquiétudes qu'il faut que le gouvernement néerlandais nous explique. Moi, j'ai entendu dans la presse néerlandaise des craintes, par exemple, sur le hub de Amsterdam. Il n'y a aucune crainte à avoir. Donc, expliquons-nous tranquillement et reprenons un cours normal.
Est-ce qu'il n'y a pas eu des craintes aussi générées par le management de Benjamin Smith?
Moi, je note que les ministres néerlandais ont affirmé qu'il soutenait la stratégie et le management d'Air France KLM. Donc, tout va bien. On a simplement besoin de se clarifier sur les intentions du gouvernement, puisqu'on est d'accord sur la stratégie. Pourquoi cette entrée au capital? C'est ce que Bruno Le Maire est en train de demander à son homologue, et c'est ce que je demanderai à ma collègue tout à l'heure.
Autre dossier, c'est celui de la SNCF, Renaud Delli.
Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, a publié hier les résultats de la compagnie. Ces résultats, c'est un bénéfice divisé par 10 en 2018 par rapport à 2017. Le bénéfice est de l'ordre d'à peu près 141 millions d'euros contre 1,5 milliard l'année précédente. Est-ce que c'est de la faute de la grève à la SNCF?
Enfin, je pense que ce résultat est une surprise pour personne. La SNCF a perdu 900 millions d'euros de chiffre d'affaires du fait des grèves. Donc ce résultat, il était attendu. Ce qui est important, c'est que les voyageurs sont revenus, que la fréquentation est en hausse. Et c'est bien le sens de la réforme qu'on a menée, c'est d'avoir des trains qui marchent mieux, qui soient plus attractifs pour les voyageurs. Vous savez, quand le train marche pas bien, on renforce la dépendance à la voiture. Donc, la réforme qui a été conduite l'an dernier, elle a vraiment cet objectif, plus de trains, des trains qui marchent mieux, un meilleur service, des trains moins chers. Et c'est ça que moi je suis. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer à la fois les représentants des régions cette semaine, les représentants des usagers, les cheminots. L'objectif, c'est que cette réforme se mette en œuvre et qu'à la fin, on ait ces résultats.
Vous parlez des trains moins chers. Précisément, quand on regarde les résultats de la compagnie, ce sont les TGV low cost, les TGV Ouigo qui progressent, dont le trafic progresse fortement. Parfois, au détriment des TGV classiques, il y a un risque potentiel de concurrence au sein de la SNCF.
Écoutez, moi je promeux un modèle de TGV qui dessert largement nos territoires et qui soit accessible à tous.
Hier a été annoncée justement la suppression de dessertes de TGV Nord entre Paris et Douai.
La SNCF a engagé une concertation effectivement avec les élus des Hauts-de-France sur une éventuelle réorganisation de dessertes. Moi j'ai dit très clairement à la SNCF que le modèle que je défends, c'est un TGV qui dessert les territoires, pas uniquement les métropoles. Donc cette évolution de desserte, elle ne peut pas se faire sans l'accord des territoires, je l'ai dit clairement à la SNCF.
Qui décide aujourd'hui des ouvertures et des fermetures de lignes de train? Est-ce que c'est la ministre ou est-ce que c'est le patron de l'entreprise?
C'est pas la ministre depuis Paris qui va décider des horaires de desserte dans les territoires. Ça, c'est une discussion
sur
qui
les
doit
horaires,
se mener,
évidemment, ça c'est une responsabilité de l'entreprise, mais sur les fermetures de lignes.
Alors, sur l'orientation générale, la stratégie sur le TGV, je vous le dis, elle est très claire de ma part, c'est un TGV qui reste dans notre modèle, un TGV qui dessert non seulement les métropoles, mais aussi les territoires.
Et donc, je vous pose la question, Elisabeth Borne, parce que Emmanuel Macron, lors d'un grand débat il y a quelques jours, s'est fâché tout rouge contre le président de la SNCF en disant qu'il s'était engagé il y a quelques semaines à ce que la ligne entre Saint-Dié et Épinal dans les Vosges ne ferme pas, que cette ligne finalement a été fermée il y a quelques semaines. Est-ce que la politique de la SNCF, désormais, elle se fait à l'Élysée?
Elle se fait, enfin, je pense que le président, il a exprimé la colère que moi j'entends aussi dans le territoire quand vous avez ces lignes, ces lignes de desserte fine, ces petites lignes, comme on dit, qui ferment sans que personne n'ait été prévenu.
Donc elle va rouvrir cette ligne ou pas?
Clairement, le président de la République l'a demandé.
Et tant pis pour la décision de Guillaume Pépi, on va passer outre.
C'est une ligne qui a fermé parce que elle est en très mauvais état, comme des milliers de kilomètres de lignes dans notre pays. Et c'est aussi un des enjeux de la réforme qu'on a engagée, c'est que pendant des années, il y a eu une politique du tout TGV, un réseau qu'on n'a plus entretenu. C'est vrai sur des lignes principales. Vous savez, quand vous êtes à Clermont, à Limoges, à Rouen, vous mettez plus de temps pour rejoindre Paris que ce que vous faisiez il y a 20 ans.
Mais donc la SNCF peut décider de fermer des lignes sans tenir compte de vos consignes?
La ligne, elle a fermé pour des raisons de sécurité et elle doit... On va faire des travaux, on en discute avec la région Grand Est, on fera des travaux pour que cette ligne puisse rouvrir.
Vous savez quand ?
On est en train de regarder avec la région Grand Est le calendrier de ces travaux, évidemment avec la SNCF. Mais vous voyez, on peut pas dans les territoires fermer des lignes. Il faut qu'on sorte de cette logique qu'on a depuis des années, dans laquelle on met tout l'argent sur les TGV, et dans le même temps, le train que les gens prennent tous les jours se dégrade. Donc c'est le sens des investissements très importants, 3,6 milliards d'euros pendant 10 ans qui ont été décidés au moment de la réforme. Et c'est le sens de la politique qu'on mène, faire fonctionner le train de tous les jours, priorité à ces trains de tous les jours.
Et on va continuer à en parler avec vous, Elisabeth Borne, dans quelques instants, le temps d'une petite pause pour les titres de l'actualité à 8h41 avec Stéphane Milhomme.
Nous allons investir 18 millions d'euros pour protéger les policiers qui en ont besoin au quotidien. Christophe Castaner l'annonce ce matin. Le ministre de l'Intérieur était l'invité de France 2 après plusieurs cas de violence visant les forces de l'ordre ces dernières semaines. Une hausse de 50 à 60 centimes pour un paquet de cigarettes, c'est à partir d'aujourd'hui. En attendant une prochaine augmentation des prix du tabac en novembre, le gouvernement veut arriver à un paquet de cigarettes à 10 euros l'année prochaine. Le tabacologue Bertrand Dotzenberg le dit sur France Info, l'incitation financière est très efficace pour la baisse du tabac, la baisse de sa consommation. Interpellé lors d'un sit-in à Alger, la dizaine de journalistes libérés hier soir par la police, il et elle avaient participé à un rassemblement contre la censure alors que de nouvelles manifestations sont annoncées pour ces prochaines heures, à quelques mois maintenant de la présidentielle algérienne. Le nonce apostolique en France est également inquiété par la justice. Au Canada, Monseigneur Luigi Ventura, soupçonné d'attouchement sexuel quand il était en poste dans ce pays jusqu'en 2009, le haut représentant du pape François désormais en France, est visé depuis quelques jours jours par deux plaintes pour des faits similaires qui se seraient produits lors de cérémonies en début d'année à l'hôtel de ville de Paris. Et puis une chance de médaille française de 19 ans pour les mondiaux de cyclisme sur piste, Mathilde Gros. Elle participe en fin de journée aux demi-finales de la vitesse, épreuve individuelle depuis la piste de Pologne-Prusco.
Info. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, est avec nous jusqu'à 9h. Renaud Dely.
Alors à quoi va servir l'argent de la SNCF? Voici la réponse de Guillaume Pépi qui était l'invité de France Info hier soir.
Une des bonnes nouvelles de la réforme, c'est que l'argent du ferroviaire reste dans le ferroviaire. C'est-à-dire que les bénéfices de la SNCF permettent d'accélérer la rénovation des voies existantes.
Donc pas de dividendes versés cette année à l'État?
Et pas dans le futur, parce que ce qu'a décidé le Parlement dans son infinie sagesse, c'est que l'argent gagné dans le ferroviaire restait pour moderniser le ferroviaire.
C'est le patron de la SNCF maintenant qui décide s'il verse ou non des dividendes à l'État. Vous confirmez ce qu'il dit, Guillaume Pépi, ou pas?
Enfin, je pense que le président de la SNCF explique ce que l'État a décidé. C'est en effet que l'argent du ferroviaire reste dans le ferroviaire.
Donc vous pouvez nous confirmer que la SNCF ne versera pas d'argent cette année à l'État, vu ses résultats?
Je le confirme totalement, pas cette année et pas les années suivantes.
Même s'il y a des gros bénéfices, il n'y aura plus de dividendes.
Il y a besoin d'un argent considérable pour remettre en état le réseau. Vous savez, quand pendant des décennies, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous n'avez pas entretenu le réseau, il faut des milliards pour remettre ce réseau en état, et c'est ce qu'on va faire.
Et en revanche, la dette de la SNCF, elle s'est alourdie de 3 milliards d'euros l'année dernière. L'État va commencer à prendre progressivement en charge cette dette.
Alors, elle s'est alourdie de 3 milliards l'an dernier, comme elle s'alourdit depuis des années de 3 milliards. Et on a en effet annoncé qu'on reprendrait 35 milliards d'euros de dette. Donc, la première, en commençant en 2020, 25 milliards. Et donc, effectivement, ça va permettre à la SNCF de consacrer tous ses moyens, sans être plombée par la dette, pour offrir un meilleur service aux Français.
Le mandat de Guillaume Pépi à la SNCF, il s'achève mi-2020, en juin 2020. Quel est le bon profil pour le successeur?
Écoutez, à partir du 1er janvier 2020, il y a une nouvelle organisation qui se met en place et on va donc devoir, dans les prochains mois, réfléchir au management de cette nouvelle SNCF. Ce n'est pas une question d'actualité aujourd'hui.
Vous avez dirigé la RATP par le passé, vous pourriez diriger la SNCF?
Non, je vous confirme que je ne suis pas candidate.
Vous ne serez pas candidate?
Voilà.
Vous ne serez pas candidate?
Non, je confirme, je ne suis pas candidate à la SNCF.
Un mot sur un autre grand projet, cette fois-ci ferroviaire, c'est le Lyon-Turin. Le nouveau gouvernement italien n'en veut plus. Est-ce que ce chantier est aujourd'hui enterré?
Alors, c'est moins simple que ça. Hein.
Oui, j'avais un peu résumé dans ma question.
Voilà,
oui.
Une coalition en Italie.
Je comptais sur votre réponse pour l'expliciter un peu.
Il y a une coalition en Italie dans laquelle le mouvement 5 étoiles...
Qui est contre tous les grands projets, a dit qu'il ne voulait pas de celui-là.
Et voilà. En particulier contre celui-là, tandis que la Ligue du Nord est tout à fait pour. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre
vous,
la position
vous parlez,
du
votre
gouvernement.
Votre ministre, il est Ligue du Nord ou il est...
Il est 5 étoiles.
Il est 5 étoiles, donc il est contre.
Donc lui, il est clairement contre. Bon. Donc ça, c'est, il n'y a pas de doute. Moi, je vais vous dire, ce projet, il fait l'objet d'un traité entre la France et l'Italie. Donc, on a tous les deux décidé ensemble de faire ce projet. Il y a des financements européens, 40%, qui pourraient être portés à 50%. C'est un projet très important. Vous savez que aujourd'hui, la part du ferroviaire dans le transport de marchandises entre la France et l'Italie, c'est 8%. Entre l'Italie et la Suisse, c'est 70%. Les gens n'en peuvent plus des camions qui traversent les vallées dans les Alpes. Ce projet, il sert à ça.
Quand l'Italie doit vous donner sa réponse?
On a
demandé, vous pouvez patienter.
On a dit aux Italiens, la Commission européenne l'a dit également, qu'on va perdre des financements s'il n'y a pas une décision rapide. Donc maintenant, le moment est venu pour les Italiens de nous confirmer qu'ils souhaitent bien réaliser ce projet.
La France pourrait augmenter sa participation pour essayer de les convaincre?
Aujourd'hui,
les Italiens payent plus que nous, hein.
L'Europe a proposé d'augmenter sa participation, comme ça la France et l'Italie paieraient à la même hauteur.
Vous évoquiez la pollution générée par le transport précisément. Ces derniers jours, il y a eu des pics de pollution dans un certain nombre de grandes métropoles françaises et la décision d'alterner, de réguler la circulation n'a pas été prise automatiquement. Il y a parfois eu d'ailleurs des délais qui ont été contestés par certains responsables politiques. Je vous propose d'écouter Emmanuel Grégoire, c'est le premier adjoint à la mairie de Paris, qui justement déplore le mode de décision.
On est en colère parce qu'il faut bien comprendre que c'est l'accumulation qui aggrave les risques, qui aggrave le danger. Nous, ce que nous plaidons depuis longtemps, et pas que sur cet épisode, c'est que dès que les scientifiques fixent des normes d'exposition dangereuses, il y a des principes d'automaticité qui s'appliquent aux méthodes de circulation de façon à dépolitiser le sujet.
Pourquoi aujourd'hui, c'est pas automatique les interdictions de circulation en cas de pic de pollution?
Franchement, je ne comprends pas ces polémiques. Il y a des procédures très claires. Il y a en effet des scientifiques qui observent le niveau de pollution. Il y a des seuils dans lesquels on commence par donner des recommandations. On limite les vitesses. Ensuite, il y a des seuils d'information. Et ensuite, on met en place des restrictions de circulation. C'est exactement ce qui a été fait. Je vais vous dire, on plaisante pas avec ces choses-là.
Mais c'est long.
Moi, je suis parfaitement consciente. Je suis parfaitement consciente qu'il y a 48 000 décès prématurés chaque année pour des problèmes de pollution. Donc, on peut pas suspecter le gouvernement.
Il y a pas de filtre politique aujourd'hui, Elisabeth Borne. Dès
filtre,
que la pollution atteint filtre. Un certain seuil, le préfet prend
mais
la décision.
Il y a aucun filtre politique. Il y a des procédures très claires. Et vraiment, ces polémiques, elles sont parfaitement inutiles.
On ne peut pas raccourcir la procédure, on ne peut pas aller plus vite, dites-vous, que ce qu'on fait aujourd'hui.
Très clairement, on mesure la pollution, c'est des scientifiques qui le font. En fonction des seuils, il y a des mesures qui sont prises, des mesures de limitation de vitesse, puis des mesures de restriction de circulation. C'est exactement ce qui a été fait. Moi, je note qu'à chaque fois, on a des polémiques, c'est parfaitement contre-productif et inutile. On applique les procédures et on se préoccupe de la qualité de l'air, non seulement au moment des pics de pollution, mais vous savez que dans la loi mobilité, qui sera débattue très prochainement au Sénat, on encourage les collectivités à mettre en place des zones à faible émission. Il y avait deux villes en France qui avaient mis en place des telles zones. On en a 15 métropoles. Le gouvernement a été discuté avec les métropoles pour qu'on agisse dans la durée sur ces questions de pollution et pas simplement les jours de pic.
Avouez que c'est quand même très compliqué le système actuel de la vignette critère. On a vu ces derniers jours plusieurs villes la mettre en place, cette circulation différenciée. Les critères n'étaient pas les mêmes selon qu'on habitait à Lille, à Paris ou à Lyon. À Lyon, par exemple, il suffisait d'avoir une vignette, quel que soit son numéro, pour pouvoir rouler. Est-ce que c'est pas trop complexe?
C'est des décisions, les modalités de gestion de ces problèmes de pollution, je pense que c'est aussi aux collectivités d'en discuter localement en tenant compte de la situation. C'est pas la même chose si vous êtes dans une cuvette comme à Grenoble ou à Strasbourg, si vous êtes à Lyon, donc que les collectivités aient une responsabilité.
Mais le sens de cette vignette critère, pourquoi?
Le sens de la vignette, il est le même partout en France. Les mesures que les collectivités prennent, ils sont adaptés à chacun des contextes. Quand on est à Poitiers, à Lille, à Paris ou à Strasbourg, les situations sont pas les mêmes.
Elisabeth Borne, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. 9h-10, l'actualité résumée en une minute. C'est Stéphane Milhomme.
Et 67% des personnes interrogées souhaitent que les enfants de djihadistes français restent en Irak et en Syrie. C'est l'un des enseignements du sondage France Info, Le Figaro, réalisé par Dentsu Consulting. Maître Marie Dosé demande à l'ONU leur rapatriement. Elle le déclare ce matin sur France Info. L'avocate n'est pas étonnée du résultat du sondage. Elle regrette que l'on rabâche que les enfants rapatriés soient des bombes à retardement. Un collier de gilets jaunes tendu à Emmanuel Macron. La scène s'est déroulée hier soir à Pessac en Gironde lors d'une réunion grand débat national à laquelle le président de la République participait. Un collier tendu par une participante. Le président de la République a refusé de le porter, préférant mettre en avant ce que l'exécutif avait réalisé depuis le début de cette crise. Depuis le Brésil, Juan Guaido s'engage à rentrer au Venezuela malgré les menaces. Le président autoproclamé et chef de l'opposition promet un retour au plus tard lundi, malgré les menaces du président vénézuélien en place, Nicolas Maduro, menace de l'arrêter dès son retour à Caracas. En pleine campagne électorale en Israël, le procureur général souhaite inculper le premier ministre et candidat Benjamin Netanyahou pour être poursuivi pour corruption présumée. Après 13 ans de pouvoir, il est en course pour un cinquième mandat. Et puis c'était le musicien américain aux 4 Oscars, la mort du compositeur et chef d'orchestre André Prévigne. Il avait 89 ans. Sa musique, vous la retrouvez notamment sur les images de My Fair Lady, Gigi ou encore Irma la Douce.
France Info. Elisabeth Borne, on parlait de la vignette critère il y a quelques instants. On va parler d'une autre vignette qui pourrait faire son retour en France. C'est la vignette pour les poids lourds. Est-ce que vous confirmez que votre ministère planche en ce moment sur cette question?
Alors, de quoi il s'agit? Vous savez, je pense que les Français, et ils le disent aussi ces dernières semaines, ils ont besoin qu'on les aide avec des meilleures réponses en termes de transport. Et ça suppose notamment d'investir fortement d'augmenter nos investissements dans les transports, pour remettre en état le réseau ferroviaire, pour augmenter, faire plus de trains autour des grandes villes, pour aussi terminer enfin les routes qu'on a promis depuis des décennies. Moi, quand je me déplace en France, quand je suis en Bretagne, on me dit le général de Gaulle nous avait promis la mise à 2x2 voies de la RN164.
Plus près de nous que le général de Gaulle, on se souvient de l'écotaxe. Cette vignette poids lourd, c'est donc le retour de l'écotaxe 5 ans après.
Donc du coup, on a besoin d'investir plus dans les transports et forcément, on réfléchit à la façon dont on peut financer ces investissements dans les transports. Moi, j'ai toujours dit, on a une programmation des infrastructures sur laquelle on travaille depuis des mois, qui suppose qu'on ait une ressource supplémentaire à partir de 2020.
Une vignette qui s'appliquerait à tous les poids lourds, français et étrangers.
Il n'y a aucune décision qui est prise. On a un grand débat qui, justement, traite des questions de fiscalité, notamment de la fiscalité écologique. On va attendre les résultats de ce grand débat.
Le journal Le Monde évoquait une piste hier, une vignette qui serait donc pour tous les camionneurs, qu'ils soient français ou étrangers, mais dont seraient dispensés ceux qui font le plein en France et qui payent donc des taxes en France en achetant leur gasoil.
Ce que j'ai toujours dit, c'est que personne ne peut comprendre que on ait tous ces poids lourds qui font le plein en Belgique ou au Luxembourg, qui traversent notre pays et qui refont le plein en Espagne, qui évidemment contribuent à l'usure de nos routes et même au besoin de renforcer ces routes. Donc, il faut trouver un moyen, ça je peux vous confirmer que je pense que ça serait une bonne idée, que ces poids lourds, en France, comme c'est le cas dans d'autres pays, participent à l'entretien et à la modernisation de nos infrastructures.
Et l'idée étant que ça coûte le moins cher possible, voire rien du tout, aux camionneurs français.
Mais
on a bien compris ou pas ?
Il y a différentes possibilités, beaucoup d'hypothèses qui peuvent être évoquées. Aucune décision n'est prise et on va attendre les conclusions du grand débat.
Il y a une autre mesure qui concerne directement les transports qui est entrée en vigueur en juillet dernier, c'est l'instauration de la limitation à 80 km/h sur les routes. Il y a une évaluation en cours de cette mesure. Le président du Sénat, Gérard Larcher, qui était notre invité ici même à votre place hier, réclame qu'on revienne en tout cas partiellement sur cette mesure.
En tous les cas, il faut cesser de raisonner nationalement. Cesser de gouverner verticalement. C'est typiquement la décision décalée. Tout dépend de l'état du réseau. Et nous voyons en janvier que l'essentiel de l'accroissement de l'insécurité routière, elle est dans les agglomérations et sur les routes à 2x2 voies. Donc, revenons au terrain.
Vous allez faire du cas par cas sur les 80 km/h et revenir selon les routes ou selon les départements sur cette mesure ?
Alors, vous savez que dès le départ, on a dit que cette mesure, elle ferait l'objet d'une évaluation début 2020. C'est évidemment un sujet qui est fortement évoqué dans le débat. Donc là aussi, on va écouter ce qui se dit dans le débat et les décisions viendront après le débat.
En janvier, la mortalité sur les routes est repartie à la hausse.
Mais je vous confirme, il y a beaucoup de radars qui sont dégradés et je crois qu'on a une augmentation de 270% des excès de vitesse sur les routes.
Votre collègue de l'intérieur, Christophe Castaner, vient de donner un chiffre. Ce matin, les trois quarts des radars français ont été dégradés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Vous confirmez ?
Écoutez, si Christophe Castaner le dit, c'est qu'il doit...
Vous m'aviez dit non, j'aurais été très surpris.
Être vrai.
Est-ce que vous avez déjà chiffré le coût de ces dégradations, à la fois pour les réparer et puis pour les PV qui n'ont pas été dressés pendant des semaines ?
Je peux vous dire que ça, je le regarde de près, parce que vous savez, ça a failli mettre en péril le budget des transports cette année, puisque une partie de ces amendes radar sert à financer les investissements dans les transports. Donc on est passé effectivement dans un moment très difficile, puisqu'il manquait beaucoup d'argent. Le gouvernement s'est dit qu'on pouvait évidemment pas pénaliser les Français parce qu'on manquait, parce qu'il y avait eu moins d'amendes radars. Et donc, on a bouclé un budget en augmentation dans les transports. Mais je peux vous assurer qu'en effet, il y a eu une forte dégradation et du coup, des amendes radars.
Et cette dégradation a fait des morts.
Cette dégradation, elle se traduit par une augmentation considérable des excès de vitesse. Le mois de janvier, vous avez vu, on a à nouveau une hausse de la mortalité, alors qu'on avait eu une baisse l'an dernier, avec la mise en place de la mesure.
Tous les radars qui ont été dégradés reprendront du service et seront tous réparés ?
Mais je pense qu'on va pas reculer sur l'objectif qui est de réduire la mortalité routière. Vous savez que c'est une cause de mortalité, c'est plus de 3000 morts par an, c'est 70 000 blessés, des gens dont les vies sont durablement perturbées parce qu'ils ont des blessures graves. Donc on va pas reculer sur cet objectif.
Et il y en aura des nouveaux ?
Bien sûr qu'il y aura des nouveaux radars.
On va continuer à en installer ?
Mais Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre des limitations de vitesse, vouloir lutter contre les excès de vitesse et ne prévoir aucun contrôle? Donc bien sûr qu'il faut des contrôles.
Les élections européennes, c'est dans moins de 3 mois maintenant, Elisabeth Borne. La République En Marche n'a pas encore de tête de liste, des noms circulent, des noms de certaines de vos collègues du gouvernement. Est-ce que vous êtes plutôt Agnès Buzyn ou Nathalie Loiseau?
Écoutez, c'est pas moi qui vais choisir...
À défaut de prendre la présidence de la SNCF.
La tête de liste pour les prochaines européennes. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, beaucoup de ministres qu'on disait issus de la société civile souhaitent avoir un engagement politique, et je pense que c'est une très bonne chose.
Effectivement, ces deux ministres seraient tentés par la tête de liste aux élections européennes, vous le confirmez?
Écoutez, je pense qu'elles pourront vous le confirmer elles-mêmes.
Hein. Vous serez sur la liste, vous?
Moi, je ne pense pas. Enfin, moi, je pense qu'un engagement politique, c'est évidemment important que ça se traduise aussi dans des élections. A priori, moi, je n'ai pas de projet pour les européennes.
Merci à vous, merci. Elisabeth Borne, et merci à Renaud Dely.